Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Bientôt 2 mois que les troupes russes bombardent l'Ukraine. Joe Biden ne rêvait que d'Asie. L'histoire l'a rattrapé et ramené en Europe. Oublié le départ calamiteux des soldats américains de Kaboul l'été dernier. Le leadership américain se retrouve revigoré. Prudence habile de Washington néanmoins sur le plan militaire, mais offensive commerciale redoutable dans l'énergie, la défense et l'agriculture. Notamment la boussole de Joe Biden, c'est l'opinion américaine qui ne veut plus de ces guerres lointaines et refuse d'y déployer le moindre soldat. Refus de toute intervention militaire, y compris de manière soft via une zone d'exclusion aérienne pourtant demandée par Zelensky. Joe Biden a pris la tête de l'opposition à Poutine. En fait-il assez? N'est-il pas trop prudent? Ce genre de critique revient en boucle chez les républicains qui estiment le président américain faible. C'est la première fois en tout cas que 2 puissances nucléaires se retrouvent face à face dans un conflit majeur chaud sans pouvoir se confronter directement. Regard avec nos invités en studio, Alexandra de Hopscheffer, politologue, spécialiste des États-Unis et des relations transatlantiques, directrice à Paris du think tank German Marshall Fund of the United States. Bonjour.
Bonjour.
Michel Duclos, diplomate, ancien ambassadeur, conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Son dernier ouvrage, La France dans le bouleversement du monde, aux éditions L'Observatoire. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
Et Philippe Golub, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Joe Biden a cette semaine qualifié de génocide l'action des Russes en Ukraine, ce qui marque un degré de plus dans l'escalade verbale du président américain. Au-delà, quel bilan faites-vous de la politique de Joe Biden vis-à-vis de la guerre en Ukraine, sur le plan militaire, sur le plan des sanctions? Dans quelle mesure les États-Unis se sont-ils concernés par ce conflit? Et le degré d'engagement de Joe Biden vous paraît-il suffisant? Alexandra de Hopscheffer.
Alors, ce moment pour l'administration Biden est un moment clarifiant, qui clarifie d'abord la détermination de Vladimir Poutine. Ça confirme aussi ce que les services de renseignement américains et britanniques n'ont cessé d'alerter les Européens, notamment au cours de ces derniers mois, qu'une invasion russe de l'Ukraine allait avoir lieu. Donc là, c'est vrai qu'il y a un décalage, en tout cas dans l'analyse que nous, Européens français, avons portée en amont de cette invasion et les Américains. Et c'est aussi un moment qui clarifie les alliances. On voit que cette guerre a renforcé l'Alliance Atlantique, a renforcé l'OTAN. On n'a jamais travaillé aussi étroitement avec Washington, que ce soit sur tous les sujets que vous avez mentionnés dans votre introduction, les sanctions, mais également de plus en plus la livraison d'armes. Donc il y a vraiment eu un renforcement de ce lien transatlantique et en face, un renforcement des alliances russes avec la Chine et un certain autre nombre de pays qui aident la Russie, ou en tout cas qui l'aident à contourner, dans la mesure du possible, les différentes sanctions que nous mettons à Moscou. Donc voilà un petit peu, je dirais, où on en est. Ce que l'on constate, vous avez prononcé le mot de génocide, c'est effectivement une escalade verbale de la part de Biden. On le voit depuis quelques semaines avec les crimes de guerre, avec maintenant le mot génocide qui est très fort dans le vocable américain. Parce que quand on parle de génocide, eh bien normalement, ça induit une action de facto beaucoup plus robuste en réaction à ce qui pourrait être caractérisé de génocide. Ce que l'on voit aussi, c'est une escalade dans la livraison d'armes. Des armes qui deviennent en fait de facto de plus en plus offensives. Les États-Unis, Biden d'ailleurs le dit publiquement, explicitement, est devenu le facilitateur pour d'autres pays partenaires et alliés des États-Unis. On l'a vu ces dernières journées avec la Slovaquie, donc pour livrer des chars à l'Ukraine. On le voit avec la République tchèque aussi. Donc il y a une escalade face à en fait une escalade russe autour du Donbass.
Michel Duclos.
Je crois que l'administration Biden a plutôt bien géré cette crise. Je pense aussi qu'il ne faut pas exagérer la dichotomie entre théâtre européen et théâtre asiatique. Pendant la première guerre froide, si je puis dire, l'Europe était considérée comme le théâtre central. Et pourtant, c'est en Asie que les États-Unis ont mené 2 guerres. Et donc, les États-Unis ont des intérêts globaux. Peut-être qu'effectivement, ils l'avaient un peu oublié ou que certains, en tous les cas, dans les milieux dirigeants, dans la classe politique, l'avait oublié parce que, bien sûr, la menace chinoise, au cours des dernières années, avait pris une importance capitale. C'était un des rares thèmes unificateurs de la classe politique américaine. Mais pour autant, les stratèges, je crois, n'avaient jamais perdu de vue cet aspect global. Et surtout, comme l'a dit Alexandra, la crise ukrainienne est là pour le leur rappeler s'ils l'avaient oublié. Mais quand je dis que la préoccupation chinoise n'est pas absente des calculs américains, c'est qu'il me semble que Poutine, c'est l'un des deux pôles d'un axe Moscou-Pékin qui a commis l'erreur, d'un point de vue stratégique, de s'avancer, de passer à l'offensive, peut-être de manière coordonnée avec les Chinois, mais en tous les cas, pas de manière simultanée et synchronisée. Et donc, vu de Washington, il est très important d'infliger ce qu'ils appellent une défaite stratégique, en tous les cas un revers aux Russes, de telle sorte que le message s'adresse aussi à Pékin. Si vous voulez vous aussi passer à l'attaque, ne croyez pas que l'Occident est aussi décadent que vous le pensez ou que vous l'avez affiché ces dernières années. Et puis aussi, si jamais les Chinois passent à l'attaque dans quelques années, ils auront à leur côté un allié russe affaibli. Car quelle que soit l'issue de cette terrible tragédie, et bien sûr, Poutine ne peut pas perdre, c'est-à-dire il s'arrangera pour avoir suffisamment de gains pour présenter cela comme une victoire, mais il en sortira quand même très affaibli. Et je pense que c'est tout cela que les États-Unis ont en tête. Donc de ce point de vue-là, il me semble que Biden a assez bien géré, comme l'a rappelé là aussi Alexandra, en faisant en sorte que les Européens ne se sentent pas seuls. Et là aussi, on y reviendra peut-être, mais de façon, je trouve, assez symptomatique de ce que pourrait être l'avenir des alliances. C'est-à-dire que les Américains ont mis le paquet, mais en même temps, en laissant une place très importante pour les Européens. On a parlé de l'OTAN, c'est aussi la première fois que l'Union européenne est reconnue à Washington comme un acteur géopolitique, puisque, je l'ai déjà dit aussi dans d'autres émissions, à la radio britannique, à la BBC Radio 4, on pouvait entendre l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'OTAN dire « Oui, l'Union européenne, pour les sanctions, c'est avec l'Union européenne que nous travaillons ». Donc voilà quelques éléments qui peut-être apporte un peu de réponse.
Votre regard à vous, Philippe Golub, sur cette gestion par Joe Biden de la crise en Ukraine et la façon, c'est un élément important qu'on n'a peut-être pas en Europe suffisamment, comment tout cela est-il perçu aux États-Unis ?
Alors d'abord, je voudrais dire que je rejoins ce qui vient d'être dit pour ce qui concerne la Chine, que la Chine reste et restera la préoccupation stratégique à moyen et long terme principale pour les États-Unis et que l'affaiblissement de la Russie inévitable au cours de ce conflit va dans ce sens-là améliorer les perspectives américaines, y compris en Asie. L'Europe ne redeviendra pas, au cours des événements effectivement tragiques qui se déroulent, le centre du monde, puisque dans les dynamiques générales des relations internationales aujourd'hui, le centre effectivement se déplace de plus en plus et s'est déplacé depuis plus d'une décennie d'ailleurs vers l'Asie-Pacifique. Donc d'abord, j'abonde dans ce sens. Je pense que Poutine, évidemment, a géré de façon absolument extraordinaire cette affaire. Il a renforcé l'Alliance Atlantique à un moment où l'Alliance Atlantique n'allait pas très très bien. C'est un véritable exploit d'avoir réussi cela. Et il faut souligner autre chose, c'est que l'économie russe n'est pas... L'économie russe est une petite économie. Le PIB de la Russie équivaut à peu près à celui de l'Espagne. Que la Russie n'est pas dans une position où la Russie peut, à long terme, soutenir cet effort de guerre sans dommage extrême pour la société russe, d'autant plus que les sanctions américaines et européennes, d'ailleurs, sont extrêmement efficaces et que le pouvoir structurel, c'est le concept que nous utilisons en relations internationales, que le pouvoir structurel des États-Unis en particulier, mais aussi de l'Europe au plan du système financier international, a ici démontré toute sa puissance. Est-ce que l'opinion américaine saura gré à Biden d'avoir géré de façon efficace et intelligent de cette crise jusqu'ici, du moins jusqu'ici. On verra ce qu'il fera à l'avenir. Ça, c'est bien évidemment moins clair. Les préoccupations de l'interne américaine, comme celle en France d'ailleurs sur le pouvoir d'achat, les préoccupations internes américaines de la population américaine dans son ensemble sont essentiellement autour de l'inflation, du prix du pétrole, du pouvoir d'achat, de tout ce qui concerne la vie domestique de tous les jours. Il y a évidemment une frange de la population américaine qui s'intéresse beaucoup aux relations transatlantiques et internationales, mais c'est bien sûr une minorité. Donc on ne peut pas savoir quel sera aujourd'hui, on ne peut pas savoir quel sera l'effet de cette politique internationale sur l'opinion américaine. Dernière chose, les États-Unis, je crois que ce n'est pas parce que la population américaine craint et est évidemment hostile à des nouvelles interventions internationales, l'Irak, la Syrie, bon, etc. C'est vrai, mais les États-Unis, le côté précautionneux de la politique américaine vis-à-vis de la Russie dans ce conflit est dû à quasiment exclusivement dû à la question des équilibres nucléaires et de la dissuasion nucléaire. Il y a un véritable danger, étant donné qu'il y a la doctrine d'utilisation d'armes nucléaires tactiques russes qui est différente des doctrines américaines. Les États-Unis aujourd'hui estiment, je suppose les dirigeants européens aussi, qu'il faut prévenir le danger d'une escalade vers le nucléaire au-delà du seuil conventionnel. Et c'est ça qui prévaut à la politique de dissuasion graduée américaine dans ce conflit.
Alexandra de Schaeffer, je rebondis sur ce que vous avez dit quant à l'action plus robuste des États-Unis face à finalement la révision par les Russes de leur posture en Ukraine avec concentration de leur action sur le Donbass. Le nombre de soldats des forces américaines déployées sur le continent européen, il est passé de 80 000 à 100 000 en 2 mois, se rapprochant du niveau de 1997. Quand vous parliez d'action plus robuste, jusqu'où les États-Unis peuvent-ils aller ce conflit?
Et effectivement, cette montée en puissance, notamment de la présence militaire sur le continent européen, est très impressionnante. C'est très, très significatif. On est plus ou moins revenu au niveau de la présence militaire américaine sur le continent européen avant 1997. Là, il y a un débat aujourd'hui à Washington, et y compris au sein de l'OTAN, justement, sur la permanence, en fait, de ces forces. Est-ce que c'est une montée en puissance temporaire ou est-ce qu'il faut la rendre permanente? C'est le débat, je dirais, clé aujourd'hui au sein de l'Alliance Atlantique. Et là, il y a beaucoup de discussions. On a notamment les pays qu'on dit grossièrement du flanc Est, des pays baltes, Pologne, mais aussi les pays scandinaves, qui, eux, appellent à une présence beaucoup plus permanente et non plus rotationnelle. Les États-Unis, comme on l'a rappelé, eux, leur ligne directrice, leur focus, leur vision stratégique, c'est effectivement la Chine avant tout. Et d'ailleurs, dans les documents stratégiques qui sont en train d'être rédigés entre le département de la Défense et le département d'État, il est très clairement explicité que certes, la Russie est caractérisée donc de menaces directes, immédiates et importantes, mais que le grand défi pour les États-Unis, c'est la Chine. Et donc, il va falloir faire des choix. Et c'est pour ça que nous, Européens, il faut aussi qu'on en tire les leçons. Puisque imaginons un scénario Taïwan, similaire à peu près à ce que l'on voit aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Les États-Unis vont nous dire gentiment, excusez-nous, mais gérer votre voisinage européen, nous, il faut qu'on y aille. Donc, va y avoir des choix à faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour la première fois de toute l'histoire américaine, on a un président américain, Biden, qui a présenté au Congrès américain le plus gros budget de la défense américain, 813 milliards de dollars. Donc on parle d'une espèce de réarmement, j'aime pas trop ce terme, mais européen. Mais on voit aussi que du côté américain, ça chamboule énormément de choses. Alors vous m'avez demandé qu'est-ce qui peut faire plus ? Là, en termes de livraison d'armement et d'assistance militaire à l'Ukraine, depuis le début de l'administration Biden, ça se chiffre à 2,4 milliards de dollars, donc livraison d'armes américaines et d'assistance militaire auprès de l'Ukraine. C'est quand même un chiffre important. On sait que ces armes-là, et bien sûr les armes européennes et d'autres pays, ont une efficacité Et d'ailleurs, ça a permis de repousser, voire de reconquérir des morceaux de territoire qui avaient été envahis par les Russes. Et on l'a vu notamment autour de Kiev, hein, les systèmes anti-chars américains, les fameux Javelin anti-aériens Stinger sont devenus en fait les symboles de cette contre-réaction ukrainienne. Mais là, on a une escalade dans le matériel qui est livré. Donc, il y a beaucoup plus de drones, il y a des hélicoptères, il y a des tanks. Donc on voit que de toute façon, on est en train de basculer dans une autre dimension de la guerre, avec une implication qui va se faire plus directement et de manière plus robuste. Sur les sanctions, ce qui est très intéressant, on n'en parle absolument pas, c'est qu'un pan des sanctions américaines les plus importantes avec lesquelles nous, Européens, on travaille depuis pratiquement le premier jour de l'invasion, c'est les sanctions sur les technologies, sur l'exportation de technologies vers la Russie. Et ça, c'est extrêmement important puisque la Russie dépend notamment des semi-conducteurs pour son industrie de défense, n'est-ce pas ? Pour ses avions, pour les automobiles. Donc là aussi, ça fait maintenant 2 mois que Européens et Américains sont en train de mettre de très lourdes sanctions en paralysant finalement la livraison, l'exportation de tech occidentale vers la Russie. Là aussi, il va y avoir d'ici quelques semaines des implications sur la capacité militaire de la Russie à continuer. Donc il y a un double volet dans les sanctions qu'il faut bien comprendre depuis le début, qui finalement fait que les Américains instrumentalise en quelque sorte les dépendances russes vis-à-vis de nous, occidentaux. On parle beaucoup de nous, notre dépendance au gaz russe, mais la Russie dépend énormément de l'Occident, justement pour exporter son gaz et son pétrole. Ça représente 40% des recettes du budget fédéral russe. C'est vraiment pas rien. Et puis, les technologies occidentales, la Russie est vraiment dépendante de la tech occidentale. Et là, la Chine ne pourra pas du tout permettre à la Russie de contourner notamment cette dimension technologique des contre-mesures que nous prenons avec les Américains.
Donc, augmentation du budget de la défense, hein, Alexandra de Pfeffer a donné le chiffre, $813 milliards, c'est une hausse de 4%. Avec cette volonté, le président américain l'a lui-même dit, garantir que notre armée reste la mieux préparée, la mieux entraînée, la mieux équipée du monde. Michel Duclos, il nous reste 2 minutes avant la fin de cette première partie d'émission. Alexandra de Pfeffer évoquait cette livraison d'armes accrue à destination de l'Ukraine. La question du transfert des MiG polonais à Kiev, là on n'est plus sur le sol, mais on est dans la guerre des airs. Elle est toujours en question.
Justement, c'était assez typique de la gestion américaine, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas donné leur accord. Parce qu'ils ne voulaient pas contribuer à l'escalade. Et donc, c'était une façon assez prudente de gérer les choses. Maintenant, peut-être qu'on a dépassé ce point, effectivement, parce que les Russes sont en train, au Donbass, de préparer un choc gigantesque, qui pourrait d'ailleurs impliquer des armes de destruction massive, probablement du chimique ou du biologique. Et je crois, enfin c'est la thèse que j'ai défendue pour ma part, qu'à partir du moment où il y a un changement de stratégie russe, il doit y avoir un changement de stratégie de notre côté. Et par exemple, il faut profiter du fait que les Russes sont partis d'une grande partie du territoire ukrainien pour aider les Ukrainiens à protéger cette partie du territoire le jour où les Russes voudront revenir, ce qui est quand même absolument inévitable. Donc je crois qu'il y a toutes les questions qu'on a évoquées de quantité, d'argent, etc. Il y a une question de stratégie qui doit être concertée entre alliés vraiment maintenant, quoi, dans les jours qui viennent. Peut-être un dernier mot pour dire que un point très important qu'a soulevé Alexandra, c'est que c'est pas uniquement les sanctions qui comptent, c'est les régimes de contrôle d'exportation. Et au fond, il faudra un jour, j'espère, lever un certain nombre de sanctions. J'espère aussi qu'on ne levera pas les systèmes de contrôle d'exportation.
On vous retrouve, Michel Duclos, avec Philippe Golub et Alexandra de Pfeffer après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Joe Biden et la guerre en Ukraine, nous retrouvons nos invités. Alexandra de Hubschefer, politologue, spécialiste des États-Unis et des relations transatlantiques, directrice à Paris du think tank German Marshall Fund of the United States. Michel Duclos, diplomate, ancien ambassadeur, conseiller spécial à l'Institut Montaigne, son dernier ouvrage, La France dans le bouleversement du monde, aux éditions L'Observatoire. Et Philippe Golub, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Philippe Golub, on a évoqué dans la première partie de l'émission la progression en Ukraine, avec tout de même, par rapport à cette concentration des actions russes sur le Donbass, une action plus robuste des États-Unis. On a évoqué le renforcement de l'Alliance Atlantique. J'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu sur la question des conséquences pour l'Europe de cet appui, bien sûr, américain dans la guerre en Ukraine. La question de la Chine. Les Américains vont se retrouver d'une certaine manière un peu coincés et finalement avec une obligation de s'aligner sur la politique américaine vis-à-vis de la Chine, une fois ce conflit terminé, s'il le sera.
L'Europe, l'Union européenne devra évidemment faire une série de choix difficiles, parce que les interdépendances européennes économiques et financières avec la Chine sont beaucoup plus profondes que celle que l'Union entretient avec la Russie. Une part non négligeable du PIB allemand et de la croissance de l'économie allemande au cours des 20 dernières années est attribuable aux investissements allemands en Chine et à l'achat par les Chinois, que ce soit des biens de consommation comme les voitures de luxe, mais aussi par les machines outils allemandes. Donc l'Allemagne est très dépendante du marché chinois, beaucoup plus dépendante par exemple que la France. Mais la France aussi dépend beaucoup du marché chinois. Et la Chine est au cœur du système économique international libéral, ou pour le dire autrement, de l'économie capitaliste mondiale, est un des centres de ce système et représente, en termes de parité de pouvoir d'achat, la première économie mondiale. Donc, pour l'Europe, la question chinoise va être un véritable défi. Et jusqu'à récemment, l'Europe ne s'est pas alignée sur les États-Unis sur cette question et ne voulait pas le faire pour des raisons d'intérêt économique, parce que les intérêts économiques prime pour l'instant en Europe là-dessus. En cas de choc, c'est-à-dire d'invasion chinoise de Taïwan, qui est rendu un peu plus difficile aujourd'hui à cause de ce qui s'est passé en Ukraine, mais en cas de choc, le choc n'est pas impossible, il ne peut pas négliger la possibilité d'un tel choc. Là, évidemment, l'Europe devra choisir très vite, dans un moment d'urgence, et on peut croire que les États-Unis, dans le cas de Taïwan, interviendront de façon assez forte en soutien à Taïwan et avec une mobilisation des alliances régionales en Asie. Donc l'Europe se retrouve dans une situation qui est un peu curieuse, c'est-à-dire les États-Unis se sont désengagés de l'Europe après la fin de la guerre froide. Ce désengagement a été exprimé maintes fois par les Américains. L'Europe n'est plus le centre du monde, ce qui est vrai bien évidemment, mais il n'y a pas de centre du monde actuellement, il y en a plusieurs. Et là, les États-Unis redeviennent un acteur politique et de sécurité central en Europe et dans le reste du monde, comme vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur. Donc, pour l'Europe, la question asiatique et la question chinoise va bientôt se poser, me semble-t-il, dans les années à venir, va se poser de façon très, très crue.
Si l'on en reste sur les conséquences sur l'Europe du conflit en Ukraine, Alexandra de Hubschefer, l'autonomie stratégique va en prendre un sérieux coup. En tout cas, elle n'était déjà pas très existante, mais il y avait ce projet. Et là, on voit bien que les choses vont être rendues largement plus difficiles.
Bah, c'est sur deux sujets. D'abord, le volet énergétique et puis l'autre, c'est le volet militaire stratégique. Alors, les Européens ont pris des décisions très ambitieuses, mais qui sont déjà en train d'être mises en place pour s'autonomiser justement du gaz russe. Pour l'Allemagne, ça va être plus long que pour d'autres pays, mais ça, c'est sur la table. Il n'y aura pas de retour en arrière, ça, c'est certain. Mais du coup, il faut qu'on se tourne vers d'autres partenaires. Et donc, le partenaire privilégié, puisqu'on n'a pas très envie de se tourner vers d'autres partenaires autoritaires, c'est bien sûr les États-Unis. Et donc là, on a vu notamment Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, aux côtés du président américain, dire que voilà, on s'est mis d'accord, les États-Unis vont augmenter la quantité de gaz naturel liquéfié vers l'Europe.
Et de ce point de vue-là, les Américains sont très gagnants.
Oui, bien sûr. Et l'autre volet, alors, où les États-Unis sont extrêmement gagnant, c'est bien sûr l'industrie de défense américaine. Il n'y a jamais eu autant d'achats de F-35, de F-16, d'équipements militaires américains par les pays européens. Et là, c'est en quelque sorte aussi une manière d'acheter et de se garantir cette garantie de sécurité américaine. Et pour finir sur la Chine, c'est intéressant votre question de lier la Chine, l'OTAN, l'Ukraine, la Russie, les États-Unis et l'Europe, parce qu'il y a un lien. Moi, j'observe dans mon travail quotidien que l'échange, la discussion transatlantique est de plus en plus refaçonnée à travers le prisme chinois. C'est-à-dire que les Américains disent on est en train, effectivement, de se réengager à vos côtés européens dans le cadre de cette guerre russe. On est là, on est en train de redéployer des troupes, du matériel militaire lourd, etc. Mais implicitement, en échange, on attend de votre part européen que vous aligniez davantage sur la politique américaine face à la Chine et que vous vous réveilliez un petit peu plus sur les enjeux, notamment géostratégiques, que représente la Chine. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Philippe Golub, on n'y est absolument pas.
Tout cela fait dire à certains qu'il y a un degré d'opportunisme très fort chez Joe Biden quant à cet engagement américain dans la guerre en Ukraine. Michel Duclos, vous en pensez quoi ?
Je n'en sais rien. Je n'y crois pas beaucoup parce que je trouve que ça fait un peu complotiste. Et qu'au fond, c'est quand même pas lui qui a créé la guerre en Ukraine. Il l'a subi comme nous tous. Je ne suis pas complètement sûr, d'ailleurs, qu'il y ait tant d'écart que cela entre les Européens et les Américains sur la Chine. C'est-à-dire, c'est vrai que les Européens sont beaucoup plus engagés, beaucoup plus dépendants, mais depuis un certain nombre d'années, il y avait quand même une correction de trajectoire. Et la trajectoire européenne se rapprochait des idées ou des thèses américaines. Comme vous le savez, la Commission avait pris des positions quand même assez fortes. Il y avait des mesures de mise en place du contrôle des investissements chinois, des mesures de protection des pépites technologiques européennes, des demandes expresses des Européens aux Chinois pour corriger certaines distorsions du marché. Donc la correction de trajectoire s'était déjà opérée en Europe et il me semble que ce n'est pas complètement impossible de rejoindre les États-Unis sur ce terrain. Par contre, effectivement, il y a un certain nombre de points de blocage ou de difficultés. Je dirais, le premier point, c'est comme vous l'avez l'un et l'autre remarqué, c'est que cette crise, c'est largement une crise pour les Allemands. Et c'est le modèle allemand qui se trouve le plus directement mis en cause, puisque ça, c'était un modèle qui dépendait de l'approvisionnement énergétique de la Russie et des exportations en Chine. Et maintenant, vous avez vu que M. Scholz a fait un discours très important dans lequel il disait « on change d'air et d'ailleurs nous allons doubler le budget militaire, etc. » Maintenant, de plus en plus d'observateurs disent « ça, c'était pour la galerie et c'était une tactique de diversion. » Mais en réalité, il n'a pas encore complètement fait le shift stratégique, comme on dit en mauvais français. Alors l'avenir nous le dira, moi personnellement, j'ai un peu l'impression que dans les semaines qui viennent, les Allemands vont être obligés de franchir les pas sur lesquels ils résistent, notamment sur l'embargo
sur
le gaz et le pétrole. D'ailleurs, les Français, il faut bien dire les choses, sont parmi les derniers à ne pas critiquer Berlin. Mais là aussi, on peut penser qu'après les élections présidentielles, là aussi, ça va changer. Et donc, je crois qu'une fois que ce verrou allemand aura été levé, et l'Allemagne étant quand même au centre de l'Alliance Atlantique, c'est un des paradoxes de cette situation, on aura une situation très différente. Pour moi, il y a un deuxième problème qui est celui de la répartition des responsabilités dans le monde, justement, entre Américains et Européens. C'est-à-dire qu'avant cette crise, mon idée, mon hypothèse, c'était que si on voulait garder la garantie nucléaire américaine en Europe, il fallait que nous, Européens, on soit capable de montrer qu'on est aux côtés des Américains en Indo-Pacifique. Et qu'on soit capable aussi de relever les Américains. Là, ils n'ont plus envie de s'engager en Afrique ou même au Proche-Orient. Et cet exercice-là de rééquilibrage des alliances, je me pose la question de savoir si elle est rendue plus nécessaire et plus facile ou si, au contraire, elle devient plus compliquée. Parce que peut-être qu'en maintenant, à Washington, déjà la tendance un peu instinctive, c'était de dire « mais on n'a pas besoin des Européens dans les pattes à Taïwan ». Je me demande si cette tendance ne va pas être renforcée, si vous voulez. Et que d'une certaine façon, un des dangers de la guerre en Ukraine, c'est que ça provincialise encore plus les Européens. Alors qui par ailleurs feront ce qu'il faut faire en matière d'autonomie stratégique, pas beaucoup l'expression, mais de résilience, de souveraineté là où c'est nécessaire. Sur les armements, et c'est inévitable qu'ils achètent plus d'armes américaines. La question, c'est est-ce que par ailleurs, ils vont être capables de développer une industrie, une base industrielle de défense européenne ? C'est ça le point. C'est là-dessus que les institutions européennes ont pris des bonnes décisions. Mais ça prendra évidemment 10, 15 ans, 20 ans à se faire sentir.
Alors, je sais que vous voulez, je vous laisse la parole, Philippe Goulub. C'est vrai aussi que cette guerre en Ukraine, peut-être, en tout cas, l'unité européenne a peut-être surpris les Américains. En tout cas, peut-être aussi que les interlocuteurs privilégiés des Américains en Europe va changer, je pense en particulier aux Polonais. Philippe Goulub.
C'est difficile de construire une véritable industrie européenne de défense en achetant des F-35 et des F-18 et des F-18. Non pas que ces armes ne soient pas efficaces, mais il y a des tensions dans l'idéologie, n'est-ce pas ? Et puis, deuxièmement, pour ce qui concerne l'Allemagne, je pense effectivement que c'est le cas allemand et le cas paradigmatique européen du néo-mercantilisme qui a conduit l'Europe dans une certaine forme d'impasse, n'est-ce pas ? Stratégique, en quelque sorte. Pour essayer d'analyser et d'évaluer les éventuelles évolutions de la politique allemande, il faut, me semble-t-il, non pas regarder vers les bureaux du chancelier, mais plutôt vers les grands décideurs économiques allemands, BASF, Siemens, les très grands acteurs économiques allemands qui ont très longtemps pesé très lourdement sur la politique internationale de l'Allemagne, y compris vis-à-vis de la Russie, n'est-ce pas ? Pas seulement la Russie, mais en Russie, en Chine, mais aussi vis-à-vis du reste de l'Europe, n'est-ce pas ? Et Angela Merkel, l'ancienne chancelière, était parfaitement intégrée dans ce processus néo-mercantiliste allemand. D'ailleurs, elle promouvait, je ne sais pas si je l'ai dit correctement le verbe, elle faisait la promotion des intérêts, des grands intérêts économiques allemands, y compris des grands constructeurs automobiles dont elle était très proche. Donc le problème allemand est un problème réel pour le reste de l'Europe du point de vue de l'encastrement de l'Allemagne dans l'économie mondiale et des excédents commerciaux allemands. Mmh. Les excédents commerciaux allemands vis-à-vis du reste de l'Europe. Un changement de la politique allemande requerrait un recentrage avec plus de solidarité intra-européenne et moins de néo-mercantilisme. Et ça posera un défi très important pour les dirigeants politiques allemands.
Mmh. Alexandra Dobschäfer.
Oui, sur la question soulevée par Michel Duclos et indirectement Philippe Goulub sur justement ce partage des responsabilités en fait, entre les États-Unis et l'Europe, où le partage du fardeau, c'est pas la même chose en fait. Le partage de responsabilité est beaucoup plus ambitieux, c'est-à-dire qu'on se dit, Américains, Européens, on va travailler ensemble sur des enjeux communs, que ce soit en Europe, dans l'Indo-Pacifique, on va discuter de stratégies communes, d'objectifs stratégiques communs. On n'y est pas, on est plutôt effectivement dans un approfondissement de ce partage du fardeau qui est un débat extrêmement ennuyeux, mais pourtant nécessaire. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus une Europe, et cette guerre en Ukraine l'accélère, qui va se focaliser de plus en plus sur elle et sur son proche voisinage. Et j'ai participé à plusieurs discussions autour de ce compas stratégique, de cette boussole stratégique qui a été publiée il y a peu de temps maintenant. Et on voyait les divisions autour de la table. On avait des pays qui disaient non mais écoutez, l'Europe n'a aucun rôle à jouer dans l'Indo-Pacifique. Concentrons-nous d'abord sur nos voisinages qui sont par ailleurs très déstabilisés. On est entouré d'un arc de crise, que ce soit à l'Est ou dans notre flanc sud, en Afrique, Méditerranée, Moyen-Orient. Et puis d'autres qui avaient une vision plus ambitieuse, c'est il faut qu'on soit aussi un acteur géopolitique global et qu'on puisse aussi développer des alliances avec des puissances indo-pacifiques. Donc cette tension-là, en fait, est toujours très présente. Et en fait, on voit effectivement un retour vers une Europe beaucoup plus centrée sur elle et son proche voisinage. Et on retrouve le même débat au sein de l'OTAN. Il y a le sommet de l'OTAN à Madrid qui va avoir lieu en juin. Et je peux vous dire que là aussi, il y a énormément de désaccords autour de la table. Les Américains disent, attendez, oui, il y a une crise en Ukraine, la guerre, etc. Mais il faut aussi que l'OTAN pense long terme et qu'il faut donc otaniser le sujet chinois. Il faut que l'OTAN s'intéresse aussi à la Chine, alors que la majorité des pays européens vous disent très clairement, écoutez, c'est retour à l'article 5, la défense collective, et l'OTAN n'a pas vocation à fondamentalement s'intéresser à la question chinoise. Vous voyez, donc il y a toujours cette tension-là, et cette guerre en Ukraine, en fait, les accentue.
Cette question de l'Indo-Pacifique va dépendre aussi, ne serait-ce que pour la France, de l'élection présidentielle dans 2 semaines. Michel Duclos.
Non, simplement pour glisser qu'il y a un mot qu'on n'a pas prononcé jusqu'ici, c'est le mot Royaume-Uni ou Grande-Bretagne. Parce qu'évidemment, là aussi, on s'aperçoit que ça joue un rôle essentiel. D'abord, les Britanniques se sont refaits, si je puis dire, sur la crise ukrainienne, puisque même M. Johnson, qu'en France on trouve ridicule, etc., après tout, fait une bonne guerre. Hein. Au moins en termes médiatiques, il donne l'impression d'être un acteur important, ce qui n'était pas évident au départ. Et il faut dire qu'effectivement, c'est à leur crédit, les Britanniques n'ont jamais versé dans les illusions que les Français et les Allemands avaient sur la nature du régime russe.
Et pourtant, alors, ils en ont largement bénéficié, les Anglais.
Oui,
quand on pense à Londres et les oligarques qui ont su investir...
Ça ne les empêche pas d'être pragmatiques, bien sûr. Mais pour les discussions qui vont s'ouvrir sur le rôle de l'Europe, le partage des responsabilités, etc., honnêtement, je ne vois pas comment nous, Français, nous arriverions à faire prévaloir une vision rééquilibrée des relations entre l'Europe et les États-Unis si les Britanniques ne sont pas un minimum avec nous. Quand il s'agit, par exemple, de prendre davantage de responsabilités en Afrique ou au Proche-Orient, ça va de soi que ça ne peut être qu'un tandem franco-britannique. Et il y a beaucoup de secteurs comme ça, ce que disait aussi Alexandra sur le concept de plus ou moins sinisation de l'OTAN. Si les Britanniques prennent la ligne la plus opposée à la nôtre, ça va être difficile, bien sûr. Et donc, à un moment donné, la question de la réintégration dans le concert européen du Royaume-Uni va se poser, et il me semble que la guerre en Ukraine accélère le rendez-vous.
Alors, est-ce qu'on peut imaginer, il nous reste 2 minutes avant la fin de cette émission, un renforcement du tandem franco-britannique au détriment du couple franco-allemand? Et j'avais cette question aussi, prochain sommet, vous avez, Alexandra de Schaeffer, a évoqué le prochain sommet de l'OTAN en juin à Madrid. Un peu plus loin, c'est le sommet du G20 en octobre en Indonésie, et Joe Biden qui s'oppose à ce que Poutine soit convié, contrairement aux pays hôtes, donc, et à la Chine. Philippe Golub.
Merci d'avoir mentionné le G20, parce que dans toute la discussion internationale en cours sur ce qui se passe en Europe, en Ukraine, dans la guerre, on oublie trop souvent de penser, de réfléchir de façon très minutieuse au fait que l'Europe et les États-Unis, ce n'est pas la totalité du monde, qu'il y a l'Inde, qu'il y a l'Asie du Sud, qu'il y a l'Amérique latine, les pays africains, qui, dans une très large part, n'ont pas soutenu le vote de l'ONU il y a quelques semaines de dénonciation, de condamnation de la Russie. Donc, il y a le reste du monde. Et il faut penser à le reste du monde, parce que c'est en termes de population la moitié du monde, ou plus que la moitié du monde. Et il faut y penser en termes de coopération, de création de coopérations multiples et variées, qui ne soient pas dans une logique binaire Est-Ouest. Parce que ces logiques binaires vont engendrer une situation dans laquelle ce reste du monde ne s'alignera pas sur l'Occident. Et il faut réfléchir sur cette question de façon sérieuse.
C'est la fin, Géopolitique. Merci Philippe Golub. Je rappelle que vous êtes professeur des relations internationales à l'Université américaine de Paris. Merci aussi Alexandra de Hopcheffer, politologue, spécialiste des États-Unis et des relations transatlantiques, directrice à Paris du think tank German Marshall Fund of the United States. Et Michel Duclos, diplomate, ancien ambassadeur et conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Son dernier ouvrage, La France dans le bouleversement du monde, aux éditions L'Observatoire. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Jérémy Boucher. À demain.